Dans cet épisode, je vous raconte la fois où les Indians de Cleveland ont offert la bière à 10 cents à leurs partisans. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guittard et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi, visitez le jfguittard.com. On commence ça dans 3, 2... 1, et c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de Drôle d'affaires et aujourd'hui, une autre histoire que je trouve particulièrement intéressante. Une histoire qui s'est passée dans les années 1970 et qui met en vedette deux clubs de baseball alors qu'il y a un des dirigeants qui a décidé d'offrir la bière à seulement 10 sous et on le sait, hein, la bière est accessible aussi facilement, ça l'entraîne certains débordements. Hein? On connaît tous des gens qui adoptent des comportements violents ou assez particuliers. Bref, c'est ce qui est arrivé lors de cette soirée. Je vous raconte tout ça dans quelques instants. Mais avant, faut se le dire, on arrive à la fin de la cinquième saison de Drôle d'affaires. Ben oui, on est rendu à l'avant-dernier épisode, donc ça veut dire ça que l'été arrive à grands pas, et ça veut dire que je vais pouvoir me reposer, me ressourcer, mais ça veut surtout dire que je dois travailler pour écrire des nouveaux épisodes pour vous revenir avec une nouvelle saison à l'automne. Et pour ça, ben je dois faire de la recherche, et justement, je lis énormément de livres dernièrement, un à deux par semaine, et là, présentement, je suis en train de terminer celui de Malcolm Gladwell, qui s'appelle Toss Winner, un petit livre super intéressant, et là-dedans, il mentionne un fait que j'ai trouvé particulièrement qui méritait de vous raconter. En fait, il parle de Microsoft et il nous dit que les gens qui désirent, qui postulent pour un emploi chez Microsoft, eh bien, doivent passer un test d'intelligence. Et une des questions, semble-t-il, qu'on pose de façon récurrente, eh bien, c'est pourquoi les couvercles de bouche d'égout sont-ils circulaires? Donc, si vous avez la réponse à cette question-là, eh bien, c'est que vous êtes suffisamment intéressant pour... intéressant, mais surtout intelligent pour travailler chez Microsoft. Et si vous n'avez pas la réponse, là, vous devez probablement chercher actuellement et vous demander pourquoi ces maudits couverts de bouche d'égout sont-ils circulaires. Eh bien, je vais vous donner la réponse, mais je vais vous faire languir un peu. En fait, je vais vous la donner à la fin de cet épisode. Bref, l'histoire d'aujourd'hui commence le 29 mai 1974, alors que les Rangers du Texas recevaient les Indians de Cleveland dans le cadre d'un match qui marqua l'histoire du baseball majeur. Et tout ça débuta à la quatrième manche, alors que le joueur de troisième but des Rangers, Lenny Randle, frappa accidentellement un joueur des Indians en tentant d'effectuer un double jeu. Et le releveur des Indians, Milt Wilcox, vengea son coéquipier à la huitième manche avec un lancé qui passa à quelques centimètres de la tête de Randle. Et lui, eh bien, il répliqua sur le lancé suivant, alors qu'il frappa un amorti et qu'il heurta volontairement Wilcox avant de frapper le joueur de premier but des Indians dans les parties. Et ça, frapper quelqu'un dans les parties, c'est jamais une bonne idée. Vous le savez, ça fait de la chicane instantanément, et c'est ce qui est arrivé. Ça a déclenché une bagarre entre les deux équipes. Et une fois l'ordre établi sur le terrain, bien, il y a des supporters des Rangers qui lancèrent de la nourriture et qui arrosèrent de bière les joueurs des Indians alors qu'ils regagnaient leur abri. Et après le match, il y a un journaliste qui demanda à l'entraîneur des Rangers s'il craignait que les partisans des Indians réagissent de la même manière lors de leur passage à Cleveland 6 jours plus tard, et ce dernier répondit du tac au tac « Ils n'ont pas assez de partisans pour que je m'inquiète ». Et Martin, il n'y avait pas tort, hein, parce que les Indians jouaient à l'époque dans un stade pratiquement vide, soit devant à peine quelques milliers de partisans, mais la soirée du 4 juin 1974 allait faire exception. Oui, parce qu'il y a un animateur de radio sportive de Cleveland qui passa la semaine à faire la promotion du match à venir, et quant aux dirigeants des Indians, eh bien, ils annoncèrent que la bière se vendrait à seulement 10 sous. Donc, au final, plus de 25 000 personnes franchirent les tourniquets. Les dirigeants avaient mis une limite de 6 bières par personne, mais il n'y avait aucun contrôle, et la demande étant trop forte, eh bien, ils prirent rapidement la décision de permettre aux partisans de remplir leurs verres à même les camions de bière qui étaient garés derrière les clôtures du champ extérieur. Et là, évidemment, il y a plusieurs personnes qui se retrouvèrent en état d'ébriété avant même que le match commence. Donc, ça a amené toutes sortes de situations étranges, notamment au début de la deuxième manche. Il y a une femme qui sauta sur le terrain et qui montra ses seins à la foule avant de tenter d'embrasser un des entraîneurs des Indians. Et en quatrième manche, ce fut au tour d'un homme de courir nu sur le terrain. Et là, les Rangers menaient par la marque de 2 à 0 et la foule huait chacun de leurs frappeurs, mais les Indians se présentèrent au bâton et réussirent à marquer un point, mais l'entraîneur des Rangers a alors contesté la décision auprès de l'arbitre, donc plusieurs partisans en profitèrent pour lancer des objets sur le terrain, quelqu'un alla même jusqu'à jeter des pétards, des feux d'artifice, dans l'abri des Rangers. Aucun des deux clubs ne réussit à s'inscrire au pointage à la cinquième manche, laquelle fut marquée par le comportement de douteux de deux hommes. Ces derniers sautèrent sur le terrain, baissèrent leurs culottes et montrèrent leurs fesses à la foule, un classique, et l'annonceur maison dut intervenir en demandant aux spectateurs de cesser de courir sur le terrain, mais en vain. Les Rangers se forgèrent une confortable avance lors des manches suivantes, portant le pointage 5-1, puis les Indians surprirent tout le monde en entamant une remontée, réussissant à créer l'égalité en 9e manche pour le plus grand plaisir de la foule, et une fois de plus, deux hommes sautèrent des gradins et coururent sur le terrain. Le problème, c'est qu'il y en a un d'eux qui tenta d'agripper la casquette de Jeff Burroughs, un joueur de champ droit des Rangers, et lui, il tenta d'esquiver la tentative de vol en assaillant un coup de pied à l'individu, mais malheureusement pour lui, il perdit l'équilibre et se retrouva au sol. Donc, croyant Burroughs en danger, les joueurs des Rangers quittèrent leur abri, batte en main, pour venir en aide à leur coéquipier. Des centaines de spectateurs réagirent en envahissant le terrain et la mêlée éclata. Les Indians quittèrent leur abri à leur tour pour venir en aide aux joueurs des Rangers qui étaient assaillis par une foule, disons-le, dont le comportement et le jugement étaient affectés par l'abus d'alcool. Donc alors que la situation dégénérait, l'arbitre prit la décision d'arrêter le match et donna la victoire aux Rangers. Le service de sécurité des Indians, qui était composé de 50 agents, demanda de l'aide externe pour parvenir à contrôler la foule. Il y a une vingtaine d'autopatrouilles qui répondirent à l'appel, et entre-temps, la mêlée se poursuivit alors que des objets volaient dans tous les sens, et Tom Hilgendorf, le lanceur des Indians, reçut une chaise pliante en plein visage. Il y a plusieurs joueurs et partisans qui sortirent du terrain avec des lacérations, mais heureusement, personne ne fut blessé sérieusement. Et au final, eh bien, il y a une douzaine de personnes qui terminèrent la soirée au poste de police. Donc l'alcool, ou plutôt l'abus d'alcool, on le sait, c'est souvent la cause de débordements, comme dans ce cas-ci. Donc il y a certaines personnes en état d'ébriété qui perdent la raison, qui ont des comportements erratiques, voire même violents. Et il y a un article du New York Times datant du 16 juin 1985, soit un peu plus de 10 ans après les événements de 1974, qui relate que la consommation d'alcool excessive préoccupait la plupart des équipes de la Ligue majeure de baseball, notamment parce que les jurons et comportements disgracieux faisaient fuir les familles. Et l'article fait référence à certains cas, dont celui d'un jeune homme qui a perdu la vie dans le défunt Shea Stadium, lequel abritait les Mets de New York à l'époque. Donc l'homme est tombé d'une rampe pendant une bagarre, et évidemment, il aurait été intoxiqué par l'alcool. Et on apprend également dans l'article qu'avant 1983, la loi provinciale en Ontario interdisait aux Blue Jays de Toronto de vendre la bière, et après la levée de l'interdiction, eh bien, le nombre d'événements disgracieux aurait augmenté significativement. Pour enrayer le problème, il y a plusieurs équipes qui ont instauré des règles. Par exemple, l'article mentionne que les Mets et les White Sox ont cessé de vendre de la bière dans les allées après la 7e manche. Les Twins, les Braves, les Pirates, les Phillies et les Dodgers ont quant à eux pris la décision d'offrir des sections sans alcool réservées aux familles. Les Tigers de Détroit sont quant à eux devenus la seule équipe à ne vendre que de la bière légère. Et là, il y en a probablement certains d'entre vous qui se demandent, mais qu'en est-il des défunts Expos de Montréal? Eh bien, l'équipe ne semble pas avoir mis en place de restrictions selon l'article. Mais il faut dire que de 1981 à 1985, eh bien, les Expos avaient comme principal commanditaire la brasserie O'Keeffe. Il y a un article publié dans le journal Le Soleil daté du 31 janvier 1986 qui nous apprend que l'entreprise aurait payé la somme de 31,5 millions de dollars pour obtenir ce privilège et l'ABAT aurait profité des difficultés financières de la brasserie O'Keeffe pour prendre le relais dès 1986 avec une entente de 5 ans évaluée à un peu plus de 40 millions de dollars. Et bien, on peut comprendre, d'ailleurs, dans le fond, pourquoi que les Expos ont probablement pas mis de restrictions, étant donné qu'ils étaient financés par les grandes brasseries canadiennes. Bref, c'est ce qui met fin à cette histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Et là, il y en a probablement certains qui attendent avec impatience la réponse à la fameuse question « Pourquoi les couvercles de bouche d'égout sont-ils circulaires? » Eh bien, c'est simple. C'est en fait la seule façon pour ne pas que le couvercle se retrouve tout au fond de l'égout, parce que s'il serait rectangulaire, de forme carrée, ben ça serait excessivement facile. Hein? Un mauvais mouvement, on incline un peu le couvercle et il se retrouve tout au fond de l'égout. Bon, ben c'est ce qui m'a fait cet épisode. Et oubliez pas, là, il en reste juste un, donc peut-être une bonne idée de vous abonner si c'est pas fait à mon podcast, hein, Drôle d'affaires. Vous pouvez le faire, là, c'est simple. Si vous écoutez sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, il y a des boutons suivre, m'abonner. Vous cliquez là-dessus et mon balado, mon podcast va se retrouver dans votre bibliothèque. Je vous invite également, je le dis souvent, si vous le voulez, de laisser une appréciation, hein, c'est-à-dire un 5 étoiles, et surtout si vous pouvez, un petit commentaire. Vous pouvez également m'écrire par courriel si vous voulez pour me démontrer votre appréciation. appréciation. Je le dis souvent, c'est pas pour rien, en fait. Le podcast, c'est un médium qui est assez solitaire. C'est dur d'avoir une interaction avec les gens, donc la seule façon de savoir si vous appréciez, bien, c'est de vous lire. Donc, gênez-vous surtout pas. Je vous invite également, si vous cherchez, là, on va se dire les vraies choses, là, un bon conférencier, là, pas n'importe qui, quelqu'un de drôle, quelqu'un qui va inspirer vos équipes, qui va être en mesure de les motiver, eh bien, allez voir le jfguitar.com, c'est mon site web. J'ai des conférences là-dessus pour vous. J'ai notamment les 7 commandements des gagnants, qui est toujours la plus populaire, la plus en demande. Mais j'ai également une conférence pour former vos gens au niveau du service à la clientèle. Faut se le dire, là, hein, avec toute la compétition, avec les géants comme Amazon, ça devient de plus en plus difficile pour bon nombre d'entreprises de rivaliser au niveau du prix. Mais par contre, s'il y a une façon de se démarquer, eh bien, c'est bien au niveau du service à la clientèle. Donc, c'est peut-être une bonne idée de former son personnel à ce niveau-là. Bref, allez voir ça sur jfguitar.com. Donc, sur ce, ben, je vous remercie infiniment, hein, encore une fois, de me suivre. C'est grandement apprécié et je vous dis à très bientôt.